21h à Ouagadougou et 22h à Abuja. Bienvenue dans Sahel Plus, présenté par Claire Morin-Gibourg. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, au sommaire de Sahel Plus. Après le bulletin d'information, nous ouvrirons l'émission avec le Tchad, où le CPDC, le plus grand regroupement des partis politiques de l'opposition, a finalement accepté de faire partie du cadre national de dialogue politique initié par le président Idriss Déby. Nous serons au Faso pour notre dossier.
Je pense que ce contrôle permet quand même, si je dis dénoncer, entre griffes, ces commerçants qui ont tendance à majorer un tant soit peu le prix pour grignoter quelque chose sur le prix réel. Je pense que ce contrôle de prix vient à point nommé.
Le Burkina Faso, où le ministère burkinabé du commerce a initié une grande opération de contrôle des prix et de la qualité des produits de grande consommation. Reportage de Zoumana Wonogo à suivre. Cinéma dans notre page culture aujourd'hui pour évoquer les difficultés de la sortie du film Half of the Yellow Sun au Nigeria. Et enfin dans notre rubrique Perspectives africaines de fin d'émission, direction le Mali, où un représentant pour le dialogue inclusif entre les Maliens vient d'être nommé. Mais auparavant, voici le bulletin d'information.
Bonsoir à tous, Jean-Roger Billon à ce microphone. Le gouvernement et les rebelles du Soudan du Sud s'accusent mutuellement de violer le cessez-le-feu juste quelques heures après son entrée en vigueur. Nicolas Pinault.
Oui, la trêve devait en principe entrer en vigueur 24 heures après sa signature vendredi dernier à Addis Abeba entre le président Salva Kiir et son rival Riek Machar. L'accord de cessez-le-feu prévoyait aussi l'ouverture de corridors humanitaires et la formation d'un gouvernement de transition. Quelques minutes après la signature, le secrétaire d'État américain John Kerry avait même estimé que cela pourrait constituer une avancée majeure. Mais dimanche, des affrontements ont été signalés autour de Bentiu, capitale de l'État d'unité. Les rebelles accusent les forces gouvernementales d'attaquer leurs positions sur plusieurs fronts dans l'État du Nil supérieur et l'État d'unité. Djouba, de son côté, affirme avoir ordonné à ses hommes l'arrêt des hostilités et accuse les rebelles d'avoir lancé une attaque dès le lendemain dans les villes de Rubkona, Tarja et Mankin. Le dernier cessez-le-feu, signé le 23 janvier entre les belligérants, n'avait duré que quelques heures.
La secte islamiste Boko Haram a diffusé ce lundi une nouvelle vidéo montrant une centaine de jeunes femmes présentées comme étant les lycéennes nigérianes enlevées il y a un mois dans le nord-est du pays. Le chef de Boko Haram affirme les avoir converties à l'islam et qu'il ne va les libérer qu'en échange de prisonniers du groupe islamiste. Mais Abba Moro, le ministre nigérian de l'Intérieur, a exclu tout échange de prisonniers, disant que ce n'est pas à Boko Haram de poser des conditions. En Centrafrique, des hommes armés non identifiés ont brûlé hier des villages près de Baga, Kaba, Kaga, Komodora, mais alors que la coalition Seleka vient de réorganiser son état-major afin de mieux maîtriser ses troupes, à Bangui, le premier ministre présente sa feuille de route, Félix Yepassis Zembo.
Des assaillants non identifiés ont ciblé les villages d'Issikou et Samboké près de Kaka Bandoro dans le centre du pays. Il y aurait 10 morts à Issikou et plusieurs dizaines de maisons incendiées à Samboké. À Bangui, le Premier ministre André Nzapaïké a présenté sa feuille de route devant le Parlement provisoire. Selon lui, il s'agira du rétablissement de la paix et de la sécurité, l'assistance humanitaire, la gouvernance politique et la relance économique. Cependant, la présidente de la transition, Catherine Samba-Panza, a déjà annoncé un prochain remaniement de l'équipe gouvernementale. Par ailleurs, le général Joseph Zoundeko est devenu le nouveau chef militaire de la coalition Seleka. Une coordination politique provisoire a été mise en place, dont le coordonnateur est Abdoulaye Hissène, travaillera avec les autorités à Bangui. En tournée depuis le 8 mai dans le sud du Tchad, le président Idriss Déby Itno a annoncé la fermeture de la frontière avec la République centrafricaine. Une fermeture qui sera toutefois difficile à mettre en œuvre sur plus de 1000 km dans une région poreuse.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
En Ukraine, les séparatistes pro-russes de la région de Louhansk ont proclamé leur indépendance peu après que leurs voisins de Donetsk eurent fait pareil et demandé leur intégration à la Fédération de Russie. Ces décisions sont consécutives au référendum controversé de dimanche dans deux régions de l'Ukraine. La Maison-Blanche a déclaré que les États-Unis ne reconnaissent pas les résultats des référendums de dimanche. Jay Carney, le porte-parole de Washington, a également déclaré que la Maison-Blanche était déçue que Moscou n'ait pas utilisé son influence pour empêcher les votes d'avoir lieu. Et puis en Afghanistan, les talibans ont lancé leur offensive annuelle du printemps par une série d'attaques dans le pays, dans la ville orientale de Jalalabad. Une fusillade au ministère de la Justice a fait 9 morts.
Retour à la partie magazine de Sahel Plus et nous ouvrons l'émission avec le Tchad. Le Tchad, où le CPDC, la coordination des partis politiques pour la défense de la Constitution, autrement dit le plus grand regroupement des partis politiques de l'opposition, a accepté de faire partie de la plateforme de dialogue politique, le CNDP, le cadre national de dialogue politique. Comment expliquer ce revirement politique ? Pour quelles raisons le CPDC accepte aujourd'hui de faire partie de cette plateforme créée par Idriss Déby en avril 2013 ? Notre correspondant à N'Djamena, François Djekombé, a tenté d'y voir plus clair.
L'entrée de la principale coalition de l'opposition politique, la coordination des partis politiques pour la défense de la Constitution CPDC, dans le cadre national de dialogue politique CNDP. Nouvelle plateforme d'échange entre acteurs politiques tchadiens est le fruit d'une longue discussion entre la CPDC et le pouvoir. Selon la CPDC, c'est après que le pouvoir ait accédé à quelques-unes de ses revendications en 10 points, contenues dans un mémorandum qu'elle a accepté d'entrer dans le CNDP. Parmi ces revendications satisfaites, le nombre des membres du CNDP qui passe de 15 à 25, dont 5 postes accordés à la CPDC, la création d'un poste de facilitateur qui pourrait intervenir en cas de blocage, l'allocation d'une ligne budgétaire au CNDP, etc. Mais selon Gabriel Aligolor, un des membres de la CPDC entré dans le CNDP, il y a également des points contenus dans le défunt accord politique du 13 août 2007, non satisfaits qui doivent faire l'objet de discussions par le nouvel accord.
Il s'agit de la démilitarisation de l'administration territoriale et centrale, de la dépolitisation de l'armée, du renforcement des capacités des partis politiques et des associations de la société civile, mais aussi des médias privés qui sont en première ligne dans ce que nous faisons et qui souvent manquent de moyens. Il s'agit essentiellement dans ces chapitres-là de faire en sorte que le CNDP puisse discuter de tous les problèmes qu'il juge importants et qui peuvent faciliter le bon déroulement du processus électoral. Et parmi ces problèmes, il y a le réaménagement du code électoral. En tout cas, le code électoral tel qu'il existe en ce moment n'est pas du tout adapté à notre pays. C'est un code électoral élaboré à la mesure du parti au pouvoir.
À quelques mois des élections générales au Tchad, chaque parti politique affûte ses armes. Mais la question essentielle de recensement biométrique n'est jusque-là pas élucidée. Aussi se demande-t-on si le président Déby, au pouvoir depuis 24 ans, va rempiler pour un cinquième mandat en 2016 ou non. N'Djamena, François Djekombé, La Voix de l'Amérique.
N'Djamena, où vous nous écoutez sur le 93.1 FM. Nous sommes donc au Burkina Faso pour notre dossier. Dans le cadre de la lutte contre la vie chère, le ministère burkinabé du commerce a initié une grande opération de contrôle des prix et de la qualité des produits de grande consommation. Reportage de notre correspondant à Ouagadougou, Zoumana Wonogo.
19 produits soumis à une réglementation des prix font l'objet de contrôle depuis quelques jours et ce, durant toute cette année, par le ministère en charge du commerce du Burkina. Suivant Abdoulaye Koulibaly, le directeur de la concurrence et de la répression des fraudes sur la nomenclature des produits concernés et le mode opératoire de contrôle.
Il s'agit du riz, des autres céréales locales, c'est-à-dire le mil, le sorgho, le maïs, les huiles alimentaires, la graine de coton destinée à la production de l'huile alimentaire, les intrants agricoles, les produits phytosanitaires, le sucre, la farine de froment, le pain, le lait et les produits de la laiterie, le savon, le ciment, les fers à béton, les tôles, les hydrocarbures, les médicaments essentiels génériques, les tarifs publics, c'est-à-dire l'eau, l'électricité, les articles scolaires et enfin les tabacs. Une fois dans la boutique, alors on regardera si dans la boutique, le boutiquier a indiqué les prix de ses produits. Ça peut être un tableau sur lequel on indique les prix. Tout ça, c'est le mot de publicité des prix qu'on doit pouvoir voir sur le terrain. Maintenant, après, il s'agit de voir si le boutiquier détient un un titre. Le titre, c'est quoi? C'est la facture. Il a des produits de sa boutique. D'où viennent ces produits-là? Il les a achetés où? Parce que tout cela te permet de connaître la traçabilité du produit. Et lorsqu'il vend, pour certains, il faut délivrer une facture. Alors, on va demander à voir les factures de vente. Alors, ces factures de vente nous permettent de savoir si certaines règles ont été respectées.
Que pensent les consommateurs burkinabés de ce contrôle?
Je pense que ce contrôle permet quand même, si je dis dénoncer, entre griffes, ces commerçants qui ont tendance à majorer un temps soit peu le prix pour grignoter quelque chose sur le prix réel. Je pense que ce contrôle de prix vient à point nommé.
Nous sommes contents du contrôle, mais les prix là ne sont pas diminués encore. Nous allons demander au gouvernement pour qu'il coince les commerçants à diminuer le prix là.
La coalition contre la vie chère, une organisation de la société civile burkinabé, tout en saluant ces contrôles, demande de la vigilance et de la fermeté. On écoute Sidi Kidramé, membre de la coordination de la coalition contre la vie chère.
Il ne faut pas que ce soit des opérations de charme pour juste faire croire que bon, les contrôles sont faits. Les consommateurs aimeraient vraiment qu'il y ait une conséquence. Et l'autre fait qu'il faut souligner, c'est que au niveau de la lutte contre la vie chère, c'est vraiment un ensemble de mesures. Par exemple, on a parlé des boutiques témoins où certains denrées quand même à grande consommation devaient être mises en vente. Mais souvent, cela n'est pas suivi aussi et on a du mal à trouver même les boutiques témoins.
Nous avons alors répercuté la préoccupation de la coalition contre la vie chère, à savoir les sanctions contre les contrevenants au directeur de la concurrence et de la répression des fraudes, Abdoulaye Koulibaly.
La loi prévoit un ensemble de sanctions. Il peut s'agir des sanctions pécuniaires, le paiement d'une amende. Il peut aussi s'agir, en fonction de la gravité, de peines privatives de liberté. La sanction peut aller jusqu'à la fermeture de la boutique. Généralement, en tout cas, c'est les peines d'amende. La loi nous fixe une amende allant de 5 000 francs à 5 millions de francs. Pour certaines infractions, la peine peut aller jusqu'à 10 millions de francs.
Un numéro vert, le 80 00 11 84, est ouvert au public pour dénoncer les commerçants véreux. Zoumana Bounogo, Ouagadougou, La Voix de l'Amérique.
Ouagadougou, où vous nous écoutez sur le 102.4 FM. Vous êtes bien à l'écoute de Sahel+. Cinéma aujourd'hui dans notre page culture et nous allons évoquer les difficultés du film Half of the Yellow Sun, que l'on pourrait traduire par la moitié de ce grand soleil. Basé sur le roman à succès de la Nigériane Chimamanda Ngozi Adichie, ce long métrage peine à sortir au Nigeria. Il a pour cadre la guerre du Biafra, ce conflit de la fin des années 60, durant laquelle 1 million de personnes ont péri, de famine essentiellement, dans le sud-est du Nigeria. Son réalisateur, le Britannique d'origine nigériane Biwi Bandele, dit qu'il a rencontré quelques problèmes avec la commission nigériane de censure. Pour parler de cette controverse, Timothée Donangmai a joint le professeur Victor Erre de l'université de Jos, qui revient tout d'abord sur le livre « Half of a Yellow Sun ».
C'est un livre, un roman, il faut le dire, hein. C'est un roman qui retrace l'histoire de la guerre du Biafra. Évidemment, du point de vue des gens qui avaient subi la guerre, principalement les Biafrais. Mais c'est toujours dans la littérature. Il y a beaucoup de gens qui s'inspirent de l'histoire, de la réalité pour produire des romans, des films. Je ne vois pas pourquoi on les empêcherait de le faire. Chaque peuple a le devoir, n'est-ce pas, impératif, de continuer son histoire à l'écrit pour la postérité. C'est un peu ce que font les frères, le confrère du Biafra.
Quelle est la place de la guerre du Biafra aujourd'hui dans la mémoire collective des Nigérians?
Tout le monde, la plupart des Nigérians, cherche à oublier un peu cette tragédie. C'était une tragédie nationale, en fait, pour le dire. Bon, il y a apparemment des gens qui empathisent toujours du moment de cette tragédie. Le pays, le Nigeria, le gouvernement fédéral, cherche à parler davantage d'unification, de réhabilitation, etc. Mais les Igbos qui avaient souffert le plus, pour eux, ils pensent que c'est à cause de ça qu'ils sont encore marginalisés de nos jours. Et ils ne cherchent pas à oublier du tout ce que le pays leur avait fait comme un peuple, comme une ethnie à part.
Aujourd'hui, le Nigeria fait face à la menace de Boko Haram. En quoi cette leçon biafraise peut-elle être utile?
Pas sans savoir qu'il y a des gens qui ont déjà commencé à accuser l'armée nigériane de génocide. Mais je ne crois pas qu'il y ait forcément le même rapport à établir entre l'actualité et le Biafra et l'actualité et le sujet de Boko Haram, quoi.
Le professeur Victor Erré de l'université de Jos au Nigeria. Et nous terminons l'émission par le Mali, où après la création du ministère chargé de la réconciliation nationale, le président Ibrahim Boubacar Keïta vient de nommer un haut représentant pour le dialogue inclusif entre les Maliens. Une nomination qui s'ajoute à la nouvelle commission Vérité, Justice et Réconciliation. Tous ces instruments doivent permettre aux Maliens de se parler, de dialoguer entre eux et, on l'espère, de permettre une véritable réconciliation nationale. Le point avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
La porte d'entrée de la réconciliation nationale est le ministère qui a été créé pour cela. Il s'est doté d'un programme de rencontres dans toutes les régions du Mali. Ataer Ag Iknan, secrétaire général du ministère de la réconciliation nationale.
La réconciliation, elle est nationale. Comme vous le voyez bien, le gouvernement a mis en place un ministère chargé de la réconciliation nationale. Ce n'est pas une réconciliation du Nord ou du Sud ou d'une partie du Mali. C'est une réconciliation de tous les fils du Mali. Tous les Maliens, où qu'ils soient, vont contribuer à cette réconciliation nationale.
Oui à la réconciliation, mais non aux anciennes pratiques. C'est du moins ce que pense Sidigé Askofaré de la société civile de Tombouctou.
Les tentatives que le gouvernement peut faire, c'est une bonne chose. Le véritable problème du Nord, ce sont les résidents qui sont à Bamako. Les gens qui se disent du Nord, qui sont à Bamako et qui sont là, qui répondent au nom du Nord. Parce que tant qu'on ne va pas à la base, prendre les gens à la base, venir discuter, ça n'ira pas.
Les Maliens, pour une fois, dans leur grande majorité, pensent qu'il faut la réconciliation nationale. Surtout les femmes, elles avancent des raisons.
Je m'appelle Genevo Koulibaly. Ma mère est Soraï, mais mon père est Bambara. J'ai remarqué déjà qu'au niveau du Nord, il y a un métissage complet. Parce qu'il y a un métissage de Bambara, de Maraka, de Sounoufo, de tout. Nous sommes tous des Maliens. Nous avons conclu que nous devons nous demander pardon l'un et l'autre. Ce pardon-là, on doit le faire, oublier le passé, et ça nous permettra de sortir de cette crise s'il le faut. C'est ce que nous souhaitons aussi vraiment.
L'équation qui dans le reste a plusieurs inconnus, d'où la colère de cette ressortissante de la région de Kidal.
Moi, c'est Safiatou Sidi de Kidal. Nous, les gens de Kidal, on attend à ce que tout le monde contribue pour les problèmes de Kidal. Parce que les problèmes de Kidal, c'est un grand problème. Parce que toutes les régions ont été libérées, sauf la région de Kidal. Et on se demande pourquoi la région de Kidal n'est pas libérée. Vraiment, on préfère que la région de Kidal soit libérée ou équipée par l'armée malienne.
Reste à savoir si l'État malien, à travers le ministère de la Réconciliation nationale, pourra mener les mêmes activités qu'il a fait dans les régions de Tombouctou et Gao. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
Sahel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation, Lionel Gaïma. À la console, Audrius Regus. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Nous nous quittons en musique avec Ali Farka Touré et son Allah Ouya. Rendez-vous demain, 21h, temps universel sur la Voix de l'Amérique ou d'ici là sur nos pages Facebook ou Twitter, VOA Sahel Plus. Bonne soirée et bonne nuit à tous.
malien ben na komika ambo de fawe
Allah ya
komalien sente femina komfana sente la